Et maintenant, retrouvons la chronique de Roni Akrish sur Radio Futée.
À nos chers auditeurs de Radio Futée, Shalom, Roni Akrish depuis Hebron. Essayons de réfléchir sur ce 20e chapitre du livre de Dvarim. Le sujet est totalement étonnant, la guerre. Le texte biblique va spécifier qu'il est interdit d'avoir peur lorsque l'on part en guerre. Qui plus est, certaines personnes sont même dispensées de partir en campagne. Cela prouve bien que la Torah ne contient pas le moindre idéal belliciste. L'un des sages qui s'exprime dans la Mishnah de Shabbat s'était déclaré prêt à transporter une arme le Shabbat, et ce malgré l'interdiction formelle de porter un certain type d'objet d'un domaine à un autre. Il considérait en fait que les armes étaient à plus d'un titre des parures et des ornements dont le transport est en principe autorisé. Cependant, nos sages rejettent généralement cette opinion et choisissent plutôt de se référer au verset d'Isaïe qui précise « De leurs glaives ils forgeront des socles et de leurs lances des serpes. Une nation ne lèvera plus l'épée contre l'autre et l'on n'apprendra plus l'art de la guerre. » L'idéal suprême poursuivi par la Torah est donc sans conteste la paix et la pleine harmonie. Pourtant, vous serez d'accord avec moi qu'il faut admettre que nos textes glorifient certaines épopées guerrières comme celle des Maccabim ou plus récemment les combats pour l'indépendance de l'État d'Israël. Est-ce à dire qu'il y a dans le judaïsme de bonnes et de mauvaises guerres? A-t-on donc le droit, dans certaines circonstances, de verser du sang et de supprimer des vies humaines alors que l'un des principes de référence de la Torah est que l'homme a été créé à l'image de Dieu? C'est au travers du célèbre épisode d'Amalek que la Torah répond de manière explicite à ces interrogations. Amalek constitue l'antithèse du peuple d'Israël. Deux passages éloquents, d'ailleurs, détaillent le contenu de cette relation dure et difficile. Écoutez. Et l'Éternel dit à Moïse, « Écris cela comme souvenir dans le livre et inculque-le à Josué, que j'effacerai le souvenir d'Amalek de dessous les cieux. » Moïse érigea un autel qu'il nomma « Dieu est ma bannière ». Et il dit, « Puisque sa main s'attaque au trône de l'Éternel, guerre à Amalek de par l'Éternel de siècle en siècle. » Ceci est dans le livre de l'Exode au chapitre 17. Mais je vous demande d'écouter un second passage qui est dans le livre de Dvarim au chapitre 25. Souviens-toi de ce que t'a fait Amalek sur le chemin à votre sortie d'Égypte. Il te rencontra en chemin, démembra tous les gens affaiblis sur tes arrières. Toi, tu étais là et épuisé, et lui ne craignait pas Dieu. Ce sera lorsque le Seigneur, ton Dieu, t'aura donné le repos de tous tes ennuis dans le pays que le Seigneur, ton Dieu, te donne en héritage pour l'occuper, que tu effaceras le souvenir d'Amalek de dessous les cieux. Ne l'oublie point. Ces textes, je l'avoue, sont à première vue assez surprenants. La Torah, dont les voies sont des voies de douceur et les sentiers des sentiers de paix, comme nous le savons, nous ordonne cependant d'effacer, une expression excessivement violente, le souvenir même d'Amalek de la surface de la terre. Nous remarquons que dans ce cas, le texte biblique utilise l'expression « souviens-toi, Zachor », qui est également employée dans les 10 commandements à propos du Shabbat. Il est bien évident que ce jour particulier, qui représente la reconnaissance hebdomadaire du règne de Dieu sur terre, revêt une importance capitale. Mais nous ne pouvons que nous étonner de l'insistance, bien sûr, de la Torah à propos de la nécessité d'effacer le souvenir d'Amalek. Dans chacun des deux textes que je vous ai lus précédemment, un autre aspect d'Amalek est mis en exergue. Dans le premier texte, rappelez-vous, Amalek est défini comme l'ennemi de Dieu, alors que dans le second, dans le livre de Dvarim, il devient l'oppresseur des faibles. Ces deux définitions sont étroitement liées, car quiconque ose attenter à la vie de l'homme, vise également l'Éternel. L'immoralité de cette attitude est parfois si grave qu'elle ébranle le trône divin. Ces deux textes ont en fait le mérite de nous expliquer pourquoi la guerre, si dramatique soit-elle, est parfois inévitable et malheureusement indispensable. Malgré les réticences ressassées par la conscience humaine, et malgré notre volonté sincère, nous l'avouons, de régler pacifiquement les conflits, il faut parfois se résigner à employer la violence et la guerre. Lorsque le mal atteint son paroxysme et que plus rien, ni la raison, ni la douceur, ne peut lui barrer la route, il faut alors répondre à la violence par la violence. Or, pour éviter de nous méprendre sur ce sujet particulièrement délicat, la halakha, la loi d'Israël, a codifié en détail l'ensemble des cas de figure possibles. Quand la guerre devient un mal nécessaire et que l'on ne peut pas l'éviter, elle est appelée Milchemet Mitzvah, une guerre liée au commandement de l'accomplissement de celle-ci. Comme son nom l'indique, faire la guerre équivaut alors à un véritable commandement divin. Maïmonide, le Rambam, considère ainsi que la guerre de conquête menée par Josué contre les sept peuples, mettez entre parenthèses si vous voulez, immoraux et indignes, qui occupaient la terre de Canaan, ainsi que la guerre à outrance contre le fameux Amalek que nous citions précédemment, sont toutes les deux des exemples parmi les plus marquants de ce genre de campagne belliqueuse autorisée et même ordonnée par l'Éternel. Et le Rambam Maïmonide d'extrapoler, il en est de même, explique-t-il, pour toute campagne de défense, pour toute guerre contre Amalek, mais aussi pour les guerres entreprises afin de libérer Israël de tout oppresseur. Pour ceux que ça intéresse, c'est dans les lois sur les rois et les guerres dans le Mishneh Torah, chapitre 5, première loi. Par opposition à la guerre de Mitzvah, il existe une autre catégorie de conflits, ce qu'on appelle Milchemet Reshut, la guerre optionnelle. Rambam détaille leur définition et il dit ainsi. Il s'agit de ces guerres déclenchées afin d'étendre son propre espace territorial. Point. Pour entamer une Milchemet Mitzvah, il n'est nullement nécessaire de solliciter l'accord des instances religieuses suprêmes, le Bet Din par exemple. Dans ce cas, c'est le souverain, le roi ou le pouvoir politique suprême qui peut décider en son âme et conscience de mobiliser le peuple et de lancer un assaut avec cet objectif de conquête territoriale. D'après ces différentes explications, nous constatons donc qu'une guerre de défense et de libération constitue une mitzvah. Les choses sont claires. Nachmanide, le Ramban avec un N à la fin, qui vécut un siècle plus tard, précise quant à lui que chaque guerre de libération du territoire national est également une guerre de mitzvah. À ce titre, le nom que porte en hébreu l'armée israélienne est bien sûr révélateur et significatif. Tous nous le connaissons, le terme bien connu est devenu si célèbre, Tsahal, est en fait ce terme composé des initiales de l'expression hébraïque Tzva Hagana l'Israël. Cela signifie quoi? Eh bien, armée de défense d'Israël. Eh oui, Tsahal est en effet une armée qui défend un peuple injustement agressé. Ainsi, le prophète Ovadia, qui était lui-même un converti et qui par conséquent connaissait parfaitement la ligne de conduite des autres nations, écrit au chapitre 1er, verset 10, « Et tu seras exterminé pour toujours le jour où tu te tenais en spectateur. » Ah ah! Ah, ne sois pas un témoin complaisant du sort de ton frère au jour de son malheur. En fait, ces paroles sont extrêmement profondes. On sait en effet que de nombreuses législations étrangères prévoient déjà une punition pour non-assistance à personne en danger. Mais quand jugera-t-on les nations pour ne pas avoir porté secours à l'une d'elles si durement, si injustement opprimée? Tout comme les guerres des Maccabim, qui se sont levées en leur temps contre les Grecs, la guerre d'indépendance d'Israël contre les nations arabes, qui continue encore de nos jours, et nous en avons été les témoins ces dernières semaines, cela constitue une mitzvah de leur faire la guerre. Quand la coupe de l'oppression est pleine, la Torah nous ordonne donc d'opposer la force à la force. Il ne s'agit nullement ici d'un bellicisme fanatique qui est à bannir d'ailleurs, tout autant que le pacifisme naïf, mais d'un recours rationnel à la violence lorsqu'il n'y a pas d'autre possibilité. Si vis pacem parabellum, dit le proverbe latin, si tu veux la paix, prépare la guerre. S'il existe certes des guerres qui constituent de véritables commandements, nous ne devons jamais oublier que notre idéal est la paix et que la société parfaite à laquelle nous aspirons sera une société pleinement pacifiste. Mais rappelons-nous, un principe moral très célèbre stipule dans la Torah, dans le traité de Sanhédrin, celui qui va pour te tuer, lève-toi et tue-le. C'est justement cette force et ce courage qu'il est nécessaire d'inculquer à notre génération. N'est-ce pas seulement grâce à ces qualités que nous parviendrons à éliminer la méchanceté de la surface de la terre et à amener la paix et le bonheur pour le peuple d'Israël et à travers lui, je n'en ai aucun doute, pour l'humanité tout entière. Votre serviteur Roni Akrish vous parlait depuis Hebron, capitale ancestrale du peuple des Hébreux. Shabbat Shalom, Yedidim, Yekarim, à la semaine prochaine.
C'était la chronique de Roni Akrish sur Radio Futé.